Motif de pantomime, Pierrot gamin. Pierrot est né dans un quartier populaire de Paris, de parents tout petits marchands. C'est un enfant chétif, trop souvent dans la rue où il ne joue guère, faible qu'il est, d'ailleurs flâneur déjà. Comme tous les enfants possibles, mais sensiblement plus que beaucoup d'entre eux, il est gourmand. 12 ans, palo, grand de lait, maigrichon. Une blouse grise, long tablier de lustrine noire, boutonné derrière les épaules. Autour du buste, une large ceinture noire et rouge de gymnastique. Pantalon à mi-jambe, chaussettes grises, gros souliers au cordon dénoué. Son jeu principal consiste à marcher dans le ruisseau, quand celui-ci est à demi-sec, pour en faire monter la boue autour de ses pieds, lentement, avec un bruit doux, ce qui lui attire des calottes à la maison. La figure longue, les traits vagues sur un cou mince, nez quelconque, montrant des narines en disproportion. Oh, la bouche, tout appétit, et ses yeux bridés, qui s'épanouissent subit. Les gâte-sauces vont et viennent rares, mêlés à la foule pauvre, des paniers recouverts d'une serviette si blanche sur leur tête, et que ça sent bon derrière eux. Ainsi exclame à part soif Pierrot chaque matin, chaque soir et chaque après-midi, en s'en allant à l'école et en s'en évadant à pas pressés, sa boîte à livres pendue à 2 bandes de visière par-dessus une épaule, lui battant sur son derrière. Aujourd'hui, il n'y tient plus, les godivots embaument trop, c'en est fait. Il bouscule l'un de ses gamins célestes, ange de bon dîner, qui tombe et son panier avec. Blanc par-ci, blanc par-là, la belle toque du pauvre Timour vole au vent dans le calembour, puis nage dans le ruisseau. Ses coudes, ses omoplates de coups nerveux baisent rudement le dur pavé fangeux. Le pantalon bleu à petites raies blanches a dans sa partie postérieure proprement dite reçu la même caresse dont son contenu et lui se fussent bien passés, tandis que le dolent Jean Boudhomme voit 36 chandelles et plus encore. Panier par-ci, serviette par-là, sauce en bas, croûte en bas, querelle à droite, crêtes à gauche, désordre et désordre partout. On s'assemble, on relève le gosse, de bonnes âmes l'éponge, le brosse, le recoiffe, lui tape dans le dos, dans les mains, sur les fesses, on ramasse croûte et panier, serviette et quenelle et crête, et tout un poème décadent donne au moins 10 sous sur 30 qui lui reste, ayant trempé dans la sauce répandue à un doigt en i sans point qu'il avait léché derrière une main en boule. Et lui, Pierrot, l'auteur de l'avarie, y a trempé ses 10 de doigts dans la dive sauce et court encore 3. 10 minutes avant la grand-messe, le cortège s'organise dans l'étroite sacristie. Pierrot, qui est enfant de cœur, guigne les burettes et met la main sur celle au vin blanc, luisant jaune, dans l'ombre projetée par les chantres occupés à revêtir la soutane et le surplis. Le sacristain s'amène pour enlever le plateau où sont les burettes et perçoit le geste de Pierrot, qu'il décourage d'une bonne claque. Monsieur le curé survient au bruit et, mis au courant, frappe le malavisé d'une amende de 10 sous sur son moi. Pierrot jure de se venger. La messe se passe. Pierrot a chanté sa partie comme un ange dans le Kyrie en faux bourdon, le Credo de Dumont, l'Agnus Dei, le Sanctus et le Domine Saluam. Le dimanche se passe. Vêpres et saluts où Pierrot a excellé comme jamais de sa voix troublante de petite écrevisse rouge qui chanterait comme un cheveu. Mais il n'a point pardonné à monsieur le curé. Au sacristain, si. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Et dans l'ombre des 4 heures de cet après-midi d'hiver, parmi le hourvari de cette foule de types se déshabillant dans les demi-ténèbres dans les droits de sacristie, il a chipé la calotte de soie et le surplis de monsieur le curé, négligemment jeté sur une des commodes aux ornements, aux soins du sacristain, par le vénérable ecclésiastique endossant sa douillette, en fait un paquet vraisemblable. Et c'est inaperçu, trotté, faut voir. Ça, c'est mal, et le bon Dieu l'empignera pour sûr, alors. Mais ce qu'il y a de bien plus pire encore, c'est que le surlendemain, mardi gras, notre brigand qui se promène en chien-lit, une troupe au bec avec la calotte si vilainement acquise sur sa tête coupable, qu'elle couvre trop grande, cheveux, oreilles, de façon à ne laisser paraître qu'une méchante grimace bien risible, pourtant, avec aussi, ah, filonc, le surplis tombant presque jusqu'au pied du gredin, le beau surplis à mi-donné, où le résidu trop copieux encore d'un pot de moutarde étale vers l'endroit vraisemblable d'une chemise portée à la place, un infâme simulacre. Et s'étant regardé dans la glace d'un charcutier, le pâle déguisé, ni plus ni moins que son dieu, le vôtre et le mien, lors du soir de chaque journée de la création, s'applaudit de son costume et la trouve bien bonne, celle-là. 4. Pierrot a, outre la gourmandise, reine de son être, et bien d'autres défauts, des habitudes particulières, sans plus insister. Son camarade Arlequin, fils du coiffeur d'en face, 13 ans, qui en paraissent 15, et 16, et les vals, et la coqueluche des tendrons, et des trottins des alentours. Jolie figure, forte, à rose saucette, teint frais, chaud, des yeux d'homme, satané bomba, tournure luronne, et cormillardement précoce, il plaît surtout à Colombine, l'aînée des trois charmantes fillettes, 14 ans, de la marchande de marée du coin. Et dame, dame aussi, Pierrot, qui en tient sans espoir pour l'infante, s'esquinte en geste vain et vain soupir. Mais une honte le retient, juste rémunération de son, comment dire, égoïsme. Il tourne autour, néanmoins, comme on dit, du pot. Colombine accepte tout, sans rien donner ni rien promettre à ce Pierrot-là, qui offre des pralines volées aux hôtelages, préalablement sucées, et des poudreaux de provenance non moins suspectes et non moins supportées. Un jour, Arlequin, à qui au contraire c'est Colombine qui donne douceur, menu cadeau et tout, etc., avec le vrai reste, surprend mon Pierrot en ce piteux manège, et je vous lui flanque une de ces tripotées. Prestement, Pierrot fait du coup philosophe, revient à l'essentiel gourmandise ainsi. Mais cette fois, il n'en mettrait pas sa main au feu. Non, mais on jurait son grand serment. Car ce glottis automne de surérogation. Épilogue. Ils ont, Pierrot, Arlequin, Colombine, 20 ans, l'un d'an de plus, l'autre un an de moins, ou des mois de plus et de moins, mais cet âge glorieux, 20 ans, rayonne tellement qu'on a 20 ans, quelque temps de plus qu'aucun autre âge. Chacun d'entre eux s'est confirmé. Arlequin est un superbe jeune homme qui a dépouillé la chrysalide du gamin pour le luxurieux costume serpentin bariolé qu'on sait bien rempli. Colombine est grasse, désirable, délicieusement animale, la saveur même. Ses toilettes éclatent comme son rire. Ils forment à eux deux un vrai couple exceptionnel, tout d'amour, sans tendresse, violent dans ses sens, tentant au possible. Il est clair que la vie les a pris, les rend et les quittera heureux, bien portants, beaux et riches de leur rouge bohème étincelante. Pierrot est leur ami, vaguement, serviteur. Lui aussi est heureux, n'ayant pas d'envie et mangeant de tout, buvant de tout. Poltron, mais prudent, Libidineux, mais extérieurement continent. Ah, ses jouissances à lui, des farces qu'il leur fait dur parfois, et corriger d'un coup de pied pointu, d'un soufflet armé de bagues. N'importe, il a joui, il a ri, il a souri, et puis nul souci. Eux encore doivent ruser parfois pour la victoire sur l'existence. Lui vit dans leur sillon comme un poisson dans l'eau. Nul remords, nul regret de rien, de rien. C'est le sage et c'est le fou, c'est l'enfant gâté de la lune. Languide amoureux du soleil qui rêve debout, s'envole ainsi, et souvent meurt d'un tas de bonnes morts. Vive Pierrot, vive Pierrot!